Qui est accordé à chacun des arguments, on pourrait peut-être avoir une petite idée de.
Ce qui, à mon avis, le truc qui est intéressant, c'est de voir, de bien dérouler la rhétorique, de voir de quoi ça parle, donc cet examen des faits, voir où ça. Et comparer plusieurs affaires, comme ça. Vous avez Kennedy, vous avez le 11 septembre, vous avez Marilyn Monroe, vous pouvez en trouver plein comme ça. Donc, et vous voyez, il y a un truc qui est à peu près similaire. Après, le truc, c'est de se dire, qu'est-ce qui, ailleurs que dans les théories du complot, est le plus proche de ça? C'est le rationalisme.
C'est rationalisme, oui.
C'est le discours critique rationaliste. Pas le discours scientifique.
Rationaliste.
Rationaliste, c'est autre chose.
Oui, parce que le discours scientifique compare.
Le discours scientifique, lui, il construit des tas de systèmes de représentation et il n'accorde pas le même rôle aux images, notamment.
Et il clarifie bien ses hypothèses et ses postulats aussi.
Oui, c'est. Comment dire, c'est.
On s'est toujours conduit par un rationaliste, en fait.
En fait, le rationalisme, c'est un discours qui est censé représenter le discours scientifique au niveau du public et expliquer comment on pense de façon rigoureuse.
D'accord.
Et qui notamment, alors ça remonte, il y a plusieurs trucs. Il y a toute cette idée de connaître l'histoire des sciences, comme quoi les sciences auraient été créées pour, notamment pour mettre fin à la pensée médiévale, au culte et tout ce qui s'ensuit. Bon, en fait, ça, les historiens des sciences montrent que c'est pas vrai, mais c'est un discours qui remonte aux Lumières. C'est-à-dire, aux Lumières, si vous prenez l'encyclopédie, vous avez la mise en place de tout un discours sur la science, sur l'histoire des sciences, qui montre qu'effectivement la science. C'est une pensée moderne qui annule toute la vieille philosophie occulte, la vision de la nature dotée d'intention, qui dit que la nature est dotée d'intention. La science, elle, donne une nature avec des phénomènes, des faits naturels. Voilà. Et donc ça, c'est un truc qui est vraiment mis en place aux Lumières. Et après, il y a tout ce discours qui va alors se greffer, qui va consister à lutter contre les anciens savoirs. La vieille philosophie occulte, l'astrologie, l'alchimie, toutes ces choses-là. Donc, c'est de là que part tout un discours sur la preuve, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que c'est pensé scientifiquement et tout ce qui s'ensuit. Et là, vous avez tout un tas d'acteurs, qu'on appelle rationalistes, qui se sont fait pour mission d'inculquer l'esprit scientifique au public, et notamment de lutter contre tout un tas de discours qui
Mais
seraient
c'est
jugés
bien ce qui avait,
anti-scientifiques.
ce qui était officiel à l'époque. Qu'est-ce côté
Qu'est-ce que vous appelez officiel?
Enfin, enfin, les gens y croyaient, je
Mais on remonte au Moyen-Âge, là, quand
Il y a
même.
quoi?
Tout ce qui était alchimie, astrologie,
Ah, oui,
tout
ben,
ça.
même les scientifiques. Newton
Voilà,
était un alchimiste, Kepler un astrologue et tout ce qui s'ensuit.
c'était
Donc
des choses
la science vient
qui
de.
étaient officielles, donc les rationalistes allaient quand même
Donc,
contre tout ce
quand
qui
ces
était
choses ont cessé
contrôlé.
de faire partie du savoir scientifique, comme ça perdurait notamment sous forme de littérature populaire,
D'accord.
le truc très important dans la pensée, c'est que ce n'est pas une opposition entre différentes sciences, c'est une opposition entre la science et certains discours qui vont être scientifiques quand ils deviennent populaires. Donc, la lutte contre l'alchimie, l'astrologie et tout, ce n'est pas quand Kepler ou Newton s'intéressaient à ces trucs-là, c'est quand après c'est devenu la littérature
D'accord.
populaire. C'est une querelle sociale, en fait. C'est la haute culture contre la basse culture.
D'accord. C'est une sorte de. C'est un peu comme une sorte de vulgarisation.
C'est une lutte de pouvoir pour savoir qui a le droit de dire quoi est fait le réel. Et donc, il y a vraiment un problème de représentation au sein de la société. C'est-à-dire que tout ce qui est astrologie, qui circule dans les almanachs, les littératures populaires, est interdit par la police et tout ce qui s'ensuit.
D'accord.
Et ça dure encore aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, maintenant, ça change justement. Mais dans tout ce qui est, si on prend les deux tiers du XXe siècle, il y avait tout ce discours qui consistait à. Il y avait ceux qui étaient les représentants de la science, du savoir scientifique, et puis tout un tas de personnes qui faisaient de la science dans leur garage et qui n'étaient pas considérées comme sérieuses. Donc, qui suscitaient une réaction de la part de ce qu'on appelle les rationalistes. Et c'est là où tout ce discours s'est vraiment mis en place. De discours, vous n'avez pas la preuve de ce que vous apportez, vos photos sont truquées, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, justement, ce discours, en fait, est le discours qui est repris après par les gens qui vont construire des théories du complot et tout.
Mais c'est
Je
marrant,
pense que le lien, il est là.
ce qui est marrant, c'est que ça semble repris à contre-emploi, parce que
Oui.
il y a une forme de contre-emploi là-dedans, le discours rationaliste.
Oui, certains c'est compliqué parce que si vous fouillez dans les groupes rationalistes, vous allez trouver des gens qui sont d'accord avec Thierry Messant. Dans les groupes rationalistes, vous avez des gens qui sont négationnistes, qui disent le vrai scepticisme ne sait pas croire au champ à gaz.
Ah oui, ça, est-ce que vous
On
pourriez
voit ça.
réfléchir à un sujet
difficile, mais oui, qu'on touche pas d'ailleurs, nous, hein, on a naturellement envie de pas toucher. Mais est-ce que là, vous pourriez nous éclaircir un petit peu sur le négationnisme qui est un peu passé en M. Latour, la première théorie du complot moderne, en fait.
Alors, je suis pas sûr que ce soit la première. Parce que, quoique Racinier, c'est juste après la guerre. En tous les cas, c'est-à-dire que le 11 septembre, les événements dans l'histoire moderne qui sont le plus proche du 11 septembre, c'est-à-dire un truc incroyable et un événement qui a une telle ampleur que la première action, c'est de ne pas y croire. C'est effectivement la bombe atomique et les chambres à gaz. C'est les deux événements qui sortent de la vie quotidienne, quoi. C'est dans l'horreur, dans le...
Dans l'inimaginable.
Voilà, on est dans un truc... Si vous prenez toutes les revues scientifiques des années 50, 60, notamment le bulletin des Atomic Scientists, donc les scientifiques, ils se sont dit qu'est-ce qu'on a créé après avoir fait la bombe. Et vous avez tous cette expression de unthinkable, truc impossible à penser. On est en train on a construit une espèce de Armageddon, quoi. Et la réaction face au camp, c'est la même chose. On ne peut pas imaginer que des hommes aient. Parce que ce n'est pas simplement vouloir détruire une partie de l'humanité, c'est construire la bureaucratie qui va avec. C'est que c'est de la routine, vous avez reçu les commandes de Zyklon B, c'est ça qui est l'horreur, elle est là. Elle est dans le fait que c'est des bureaucrates qui font leur boulot. Mm-hmm. Et qui d'ailleurs, après, disent « Ah mais non, moi j'ai répondu aux ordres, j'ai fait ce qu'il fallait faire et tout. » Donc il n'y a pas c'est pas une volonté de « on va détruire ». Non, c'est une administration qui fait sens, c'est l'horreur, elle est là. Donc on a comme ces différents événements qui, au cours de ce siècle, ont inscrit une espèce de dans notre histoire qui sont hallucinants. Et le 11 septembre, ça cumule un peu tout ça parce qu'on l'a vu en direct à la télé. Alors que ni la bombe, ni l'écran, on n'a pas vu ça. On le découvre après et on a construit cette mémoire peu à peu, au cours des années qui ont suivi. Et alors que le 11 septembre, c'est vraiment... On le voit, on le revoit, et ça s'impose. Mais on est dans le même ordre de phénomène. Et du coup, quand on est face à ça, forcément, il y a des gens, comme c'est quelque chose qui dépasse un peu notre entendement, il y a un mensonge derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ça ne doit pas être vrai, et
voilà. C'est parce que ça nous dépasse.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui est dans la tête, et puis c'est sans doute pas les mêmes raisons, mais une des raisons que moi j'ai vues par écrit, c'est que, une des explications, c'est que pour beaucoup de gens, l'idée que l'histoire de notre civilisation, que la société serait laissée au hasard de l'histoire, justement, et que se ferait par, comme ça, quoi, au petit bonheur à chance, comme en fait la vie de tous les jours, ils ne peuvent pas l'admettre. Ils disent, il y a forcément un plan, il y a forcément des gens qui dirigent ça et tout. Et cette idée que, moi petit, je ne suis pas laissé à l'abandon dans ce monde, mais que ceux qui sont au-dessus savent et dirigent.
Mais c'est en fait une récupération du concept divin.
Oui, une récupération du concept divin.
Oui, effectivement, oui.
Là.
Oui, d'accord.
Il y a d'abord l'origine de la chute des croyances.
C'est effectivement, la laïcité peut-être nous engage à chercher quelqu'un qui serait capable d'orchestrer ça. À un niveau moins.
De se rassurer, de pouvoir aussi s'expliquer.
Oui, c'est l'idée est très claire, c'est de se dire on ne vit pas dans un monde fait d'accidents et de hasards. Il y a un plan, il y a quelque chose. Il y a des gens qui le maîtrisent.
Un destin, quoi, qui n'est pas laissé.
Oui. Et ça, c'est moi, je l'ai de noir sur blanc dans un bouquin avec un grand conspirationniste qui s'est fait abattre par le FBI il y a 3-4 ans. Et le type a écrit, c'était ça son credo, quoi. Il dit, je ne peux pas croire que ma vie est une série de hasards dans un monde fait de hasards.
Il
a résisté au. Je crois qu'il payait plus d'impôts, il y avait tout un truc, il vivait encore retranché. Et le FBI a voulu aller espionner son truc. Et il y a eu, je crois, un malentendu, comme c'est souvent le cas. Et ils sont mis à se canarder dessus. Et puis voilà.
D'accord.
Et c'était un type qui appartenait à ce que c'est les milices américaines, hein, qui sont les grands conspirateurs, les grands amateurs de conspiration.
Mais pourtant, quand on...
Oui, c'était tout un tas de trucs paramilitaires.
Et quand on se tourne vers des complots un peu plus... Parce que là, bon, on remplace par des faits rationnels, enfin, apparemment, qui pourraient s'avérer vrais, des choses qu'on ne voit pas... Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça.
En fait, voilà, ce que vous dites, c'est vrai, quand la théorie du complot, elle touche des faits qui ont l'air terribles, mais qui concernent uniquement le monde humain. Mais si, par exemple, on se rapproche de choses comme l'extraterrestre de Roswell, ouais. Là, on retourne quand même dans le domaine de la croyance qu'on tente de quitter ici avec la théorie du complot. Vous comprenez ce que je veux
dire ? Non, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Il s'est passé quelque chose. C'est un truc totalement incroyable. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Même truc sur les photos, le film et tout, la polémique sur le film de Roswell, c'est le même truc que sur le 11 septembre ou sur Kennedy. Les gens discutent, qu'est-ce qu'on voit là, qu'est-ce que...
Est-ce qu'en 1947, ça paraissait vraiment incroyable parce que...
Ah, c'est pas de 47, attends, sur cette histoire. C'est l'histoire de Roswell, c'est 1995.
Oui, non, mais là...
On le renvoie en 47. Mais en 47, il n'y a pas d'extraterrestre. Il y a juste des débris. Voilà. Il y a deux histoires, il faut bien... Et en 47, il n'y a pas la théorie du complot.
Oui, c'est après qu'elle arrive. Donc il n'y avait rien d'incroyable à ce moment-là qui a déclenché cette théorie. Qu'est-ce qu'il y avait d'incroyable de...
Il n'y avait pas.
Rien qui a déclenché.
Mais après, non. En fait, c'est, oui, effectivement, il n'y a rien d'incroyable à l'époque. Sinon, il y a quand même un truc qui est ambigu, c'est que l'armée commence par faire une dépêche en disant on a récupéré une soucoupe volante. Mm-hmm. Et ensuite, ils disent non, c'est un ballon. Donc, sans s'en rendre compte, ils ont fait ce qu'il fallait pour que plus tard, on puisse réinterpréter le truc.
Ils ont dit qu'ils avaient récupéré des débris, ils n'ont pas précisé.
Non, dans la dépêche, Walter Rose, qui était le chargé de presse, de relations avec la presse à Roswell, dit on a récupéré donc des débris et tout, ça pourrait provenir d'une soucoupe volante.
Ça, c'est parce que c'est l'interprétation de ce qu'a dit le type qui était dans l'avion, qui l'a vu. Parce que
le terme soucoupe volante, c'est les journalistes qui l'ont dit.
Non. Oui, mais avant, ça a été inventé par les journalistes en juin 47.
Ah, quel.
Le 25-26 juin 47, c'est là que l'expression est née. À partir de l'observation d'un pilote américain. C'est complètement Roswell. Et après cette observation de ce pilote, il y a tout un tas d'autres personnes qui viennent raconter, on a vu des choses dans le ciel et tout. Mmh. Et à Roswell, ils disent, nous, on a non seulement vu, mais on a récupéré des débris.
Voilà. Oui, Roswell, en fait, ça fait suite à toute une suite d'appareils.
Voilà, depuis 15 jours, on parle de soucoupe volante.
D'accord.
Au monde Roswell. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, à Roswell, c'est les militaires qui disent, qui font la dépêche de presse. Donc en fait, c'est une espèce de parole officielle.
Mais oui.
Simplement, comme n'importe qui peut se tromper, ils sont trompés. Et après, ils disent, ben non, on s'est trompé, c'est un ballon. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, donc on oublie l'affaire. Dans les années 50, il y a des rumeurs de crash de soucoupe volante et tout, il y a des livres qui paraissent, tout ça, mais c'est considéré comme étant des rumeurs. Mm-hmm. C'est pas pris au sérieux. Et en 80, un ufologue met la main sur un des types qui était à Roswell. Jesse Marcel, qui dit, moi j'ai vu les débris. Et c'était pas un ballon. Et là, le truc démarre, peu à peu. Mmh.
Donc, la théorie du complot peut démarrer d'un simple témoignage, en fait.
Ah oui, oui.
En fait, la théorie du complot, elle démarre en général d'une petite preuve.
Elle démarre d'un ensemble de trucs pour lesquels on n'est pas d'accord avec les réponses que l'on a sous la main.
Est-ce que le fait qu'il y ait eu des rumeurs tout autour, vraiment...
Oui, ça a aidé, c'est-à-dire que ça a construit un complexe, peu à peu. Ouais. Je pense que si ça arrive en 80, c'est que... Effectivement, il y a eu plusieurs décennies d'histoires un peu incroyables qui ont circulé, donc on a fini par s'y habituer. La notion de soucoupe volante a été construite entre-temps par des films, par tout ça. Mm-hmm. Donc on commence à avoir une image précise de quoi on parle. Et puis surtout, le fait que quelqu'un vienne et dise « moi j'étais là, et les débris je les ai eus, entre les mains, et c'est pas ce qu'on dit », et ça c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on dit après? Le mec était officier de renseignement à l'Ouest de Roswell, et il dit que c'était une vraie soucoupe. On va lui dire que non. Donc après, la controverse s'engage. Et puis la controverse, forcément, si elle s'engage, c'est sur le truc, c'est est-ce qu'on nous cache quelque chose? On ne peut pas l'éviter, là. L'argument, il est incontournable. Il y a forcément quelqu'un qui cache quelque chose. Soit le mec s'est trompé, soit les militaires, et effectivement, en fait, ils sont cachés quelque chose. Quand en 47, ils disent d'abord, on a trouvé une soucoupe, ensuite ils disent, c'est un ballon sonde, à ce moment-là, ils cachent quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un ballon sonde, d'un programme de grâce secret. Voilà, ils espionnaient les Russes. Donc là, effectivement, ils ont caché quelque chose. Ils ne se rendaient pas compte qu'en cachant ça, plusieurs décennies plus tard, on allait s'en servir pour dire qu'ils ont caché autre chose que ça.
Mais quand le type en 80 dit que c'était effectivement une soucoupe volante, il dit encore ça pour cacher la vérité sur
non. Je lui dis pour révéler, parce qu'il pense qu'effectivement c'est une soucoupe. Jesse Marcel était persuadé que ce qu'il a eu entre les mains, c'était pas les trucs d'un ballon sonde, même top secret. C'est là où ça devient compliqué. C'est qu'en fait, la personne, quand il a le truc entre les mains, eh bien, il l'interprète aussi comme tout le monde. Et il ne savait pas ce qu'il avait entre les mains.
Et pourquoi il a mis tant de temps à se...
Le hasard a fait que pendant des années, il en parlait, mais c'est pas, ça n'est pas sorti de sa sphère privée. Quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il a pu y réfléchir après, que justement avec
ce c'est clair qu'il y a réfléchi.
Ce qu'il y a eu après, ça l'a peut-être amené à cette théorie ou...
Non, il y a réfléchi après, mais sur le moment en 47, il semble que il pensait déjà que ce qu'il avait entre les mains, on le voit en photo aussi. C'était un truc très bizarre. Il y a une histoire assez curieuse. Donc là, on voit que le complot, vous voyez, on ne pouvait pas l'éviter. Il est dans l'affaire. Il est dedans. Oui, c'est pas un truc qu'on rajoute dessus. Quoi.
Alors, dès qu'on touche au domaine militaire, on est forcément au secret. Et ça...
Forcément, dès que vous parlez de CIA, dès que vous parlez de trucs comme ça, du gouvernement et tout, il y a forcément des secrets. Oui. Donc ça vient très vite. Et